Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pas mécontent de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Encore aujourd'hui, nos indispensables du jour, ce seront Paganini, le prince du violon, et sans aucun rapport à parler de gastronomie avec une sélection de terrasses, c'est le moment ou jamais. Vous retrouverez évidemment Louise Bernard, Bertrand Chamerois, Antoine Janton, Hélène Manarino et Eva Rock, par ordre alphabétique. Voilà, j'ai fait l'appel. Oui, c'est l'appel du 18 juin. Et si.
Non, ça passe pas.
Et la preuve, ce jingle montre que ça peut passer tout en passant sans passer. Évidemment, évidemment. Je l'ai préparé parce que j'avais honte. Notre infomédia va se pencher, c'est le cas de le dire, sur l'archéologie. Arte lui consacre toute une programmation spéciale demain avec une dizaine de documentaires de midi à minuit. Parmi eux, Narbonne, la seconde Rome, où l'on apprend que sous Jules César, la ville était une prodigieuse cité avec des monuments gigantesques qui ont tous été détruits, mais évidemment retrouvés grâce à des fouilles qui ont encore lieu actuellement. Vous verrez des images en 3D prodigieuses également. Nous sommes avec Alain Tixier, le réalisateur. Et puis nos invités, Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions de TF1. Avec lui, on va découvrir Camille et Images, la nouvelle émission de Camille Combal qui démarre demain samedi, mais également toute la grille d'été de la première chaîne. Enfin, une légende de la musique et de la musique classique, le chef Jean-Claude Casadesus, 85 ans, toujours plein de projets. Dimanche, il va diriger avec un orchestre de 100 musiciens le concert de clôture du Lille Piano Festival qu'il a lui-même fondé. Il y aura en prime son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe.
Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Et merci pour votre soutien à tous les deux. Au sommaire,
on
Antoine.
On est là pour ça. Hein.
Sommaire Antoine de votre journal des médias.
Des témoignages inédits sur Canal+, ce week-end, l'arrivée d'Estelle Denis sur RMC Story et puis le marché de la publicité qui repart à la hausse.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise. Qu'ont regardé les Français hier soir?
Ils ont largement regardé TF1, le téléfilm Le Saut du Diable, le téléfilm d'action avec Philippe Basse. 6 100 000 téléspectateurs, 30,5% de part d'audience. Un véritable carton pour ce téléfilm. Films. Deuxième, France 3, c'était un téléfilm également, Meurtre à Sarlat, une rediffusion, 2 830 000 téléspectateurs, tout de même devant ce téléfilm diffusé pour la troisième fois, 13,5% de part d'audience. Et puis, dernière place du podium pour France 2, avec Envoyé spécial qui se maintient autour de 1 800 000 téléspectateurs, 820 000 pour être précise, 9,3% de part d'audience. À noter le petit score d'M6, quatrième, avec le film Tamara, deuxième volet, 1 340 000 téléspectateurs, 6,6% de part d'audience.
Culture Média.
Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une un documentaire événement.
Faut qu'on parle, c'est son titre. Il sera diffusé demain soir sur Canal+. Il donne la parole à 6 sportifs encore en activité qui parlent pour la première fois de leur homosexualité face caméra. C'est inédit. 3 hommes et 3 femmes, des médaillés olympiques, des champions du monde dans 6 disciplines, le patinage, le basketball, le judo, l'escrime, le rugby et la natation. Des athlètes professionnels qui ont longtemps réfléchi avant d'accepter de parler. Les convaincre n'a vraiment pas été facile. Arnaud Bonin, l'un des co-réalisateurs du documentaire.
Ils ont hésité parce que le tabou est encore fort, notamment chez les garçons. Il faut quand même savoir qu'avant ce documentaire, parmi les sportifs professionnels en activité, dans l'histoire, si j'ai envie de dire, un seul garçon a parlé pendant sa carrière. Donc le tabou est fort. Ils ont réfléchi parce qu'ils savent que ce n'est pas du tout anodin. Ils savent qu'il peut y avoir des critiques, qu'il peut y avoir des répercussions. Ils sont en carrière, ils n'ont pas envie d'être perturbés non plus parce que certains vont faire les Jeux cet été. Donc forcément, c'est une décision, une prise de parole qui se réfléchit. Ils ont mesuré le pour et le contre. Et une fois qu'ils ont compris et pensé que le message était plus fort que le petit risque qu'ils prenaient, ils ont dit banco.
Et ils ont témoigné donc, mais ils ont demandé à garder leur identité secrète jusqu'à la diffusion du film. Ils craignaient notamment que la presse ne s'en empare pour réduire leurs propos et écrire des articles qui se contenteraient de dire que tel ou tel sportif a fait son coming out, un terme d'ailleurs qu'ils refusent d'utiliser. Ce qu'ils veulent, c'est que leur message, leur témoignage en entier soit entendu. Les réalisateurs ont d'ailleurs voulu faire un film optimiste, positif, Arnaud Bonin.
Vous ne voulez pas quelque chose de noir, parce que ce n'est pas noir leur histoire, et il y a des difficultés, il y a des rejets parfois dans leur adolescence, il y a des moments dans le milieu du sport où ça n'a pas été bien accueilli. Mais le discours général est un discours optimiste et positif, et qui est quand même porteur, je pense, d'espoir, et qui doit permettre de libérer aussi, au-delà de la parole, libérer un petit peu les mentalités et ouvrir des portes à certains.
Arnaud Bonin, co-réalisateur avec l'ISOU du documentaire Faut qu'on parle, c'est diffusé sur Canal+, demain soir à 23h.
Canal+, qui devrait se séparer de Pierre Ménès.
Oui, c'est ce qu'annonce Le Parisien ce matin. Le journal affirme que la direction de Canal+ a pris la décision de l'évincer définitivement de ses effectifs, alors que Pierre Ménès, lui, aurait aimé revenir sur la chaîne à la rentrée. Revenir parce qu'il en est absent depuis 3 mois suite à des accusations de violences sexuelles. Violences sur lesquelles une enquête interne a été lancée. Les conclusions sont attendues à la fin du mois ou au début du mois de juillet. C'est ce dossier qui expliquerait son probable départ, selon certains. Pour d'autres, écrit Le Parisien, il serait lié directement à la défaite de Canal+ face à Amazon pour les droits de la Ligue 1. Quoi qu'il en soit, des discussions, des négociations ont lieu selon l'entourage du chroniqueur. Chroniqueur qui a par ailleurs reçu plusieurs propositions selon Le Quotidien.
Et dans l'actualité des médias, d'autres changements pour la rentrée.
Estelle Denis va quitter la chaîne L'Équipe sur laquelle elle officiait depuis 2017, direction RMC et RMC Story, de midi à 15h tous les jours en semaine. Elle va y animer un débat sur l'actualité avec des interventions d'auditeurs et de téléspectateurs. Elle remplace ainsi l'émission de Laurent Neumann et Emmanuel Lechypre. Pas de remplacement, mais une arrivée dans l'équipe de Télématin sur France 2, celle d'un humoriste, Alex Vizorek. Il tiendra un billet 2 fois par semaine, les lundis et mercredis, d'après Télérama. Une première pour cette émission qui continue sa mue pour sa 38e saison. Elle sera présentée par le duo Thomas Soto-Julia Vignali, une émission que la chaîne dit vouloir rendre plus moderne et plus ancrée dans l'actualité.
Dans l'actualité, justement, une tribune publiée par le journal Le Monde.
Nous refusons de devenir un média d'opinion. Opinion au singulier, c'est le titre de cette tribune, écrite et signée par la Société des rédacteurs et par l'intersyndicale d'Europe 1. Elles écrivent qu'en liant son sort à CNews, la station va perdre son capital de crédibilité auprès de ses auditeurs. Elles annoncent saisir par ailleurs le comité d'éthique de la station et demandent aux dirigeants d'Europe 1 de clarifier leur position sur ce sujet.
On en parlait mercredi, cet appel lancé par la presse magazine, appel qui commence à être entendu.
Deux groupes ont répondu à cet appel, appel à rejoindre l'organisme que le SEPM, le syndicat de la presse magazine, vient de lancer, un organisme de gestion collective dédié aux droits voisins. Ces deux groupes sont 2 syndicats professionnels. Le premier représente la presse spécialisée, le second la presse d'information en ligne comme Mediapart. L'objectif est de peser face aux GAFA lors des négociations sur les droits voisins. Ces droits qui doivent permettre aux médias d'être rémunérés pour l'utilisation de leur contenu par les plateformes, par exemple Google.
Et pour terminer, une forte hausse.
Oui, celle attendue du marché publicitaire cette année. Plus 7,2% pour la télévision en France, plus 6,9% pour la radio. Des estimations données par l'agence Magna, estimations encore plus fortes pour le marché de la pub dans le monde, plus 13,5% par rapport à l'an dernier, ce serait un record. Une hausse qui, cela dit, devrait être en grande partie captée par les géants du numérique, Google, Facebook et Amazon, et donc leur profiter.
Merci beaucoup Antoine Janton, merci Luce Bernard. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end. Et il y a du foot.
À lundi. À lundi.
Bon week-end. Dans un instant, notre infomédia du jour va s'intéresser à la ville de Narbonne, autrement dit, et c'est le titre d'un documentaire passionnant, La Seconde Rome, rien que ça. Nous en parlons avec Alain Tixier, le réalisateur.
Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
C'est aujourd'hui que commencent les journées européennes de l'archéologie, 3 jours de visites guidées dans des musées et sur des sites de fouilles. Manifestation à laquelle Arte consacre une programmation spéciale demain. Une 10aine de documentaires de midi à minuit. Des films qui nous emmènent en Égypte, au Mexique, en Italie et en France, à Narbonne précisément, sur des sites antiques, lieux d'incroyables découvertes qui témoignent de la puissance de la ville à l'époque romaine. Bonjour Alain Tixier.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé ce documentaire sur Narbonne. Je donne le titre Narbonne, la seconde Rome. Titre éloquent. En quoi Narbonne pouvait-elle être comparée à Rome ?
Alors, effectivement, Narbonne, on sait que c'est une ville de province, effectivement, dans le sud de la France, mais peu de gens, et j'avoue que moi-même, je ne savais, avant de faire ce film, je ne savais absolument pas que Narbonne avait été une des villes, une des métropoles les plus importantes romaines en Gaule. Et même plus qu'une métropole romaine en Gaule, c'était non seulement la capitale d'une immense province qui était la Narbonnaise, qui allait de Genève jusqu'à Prétarbe, qui était la plus grande province gauloise, mais c'est surtout que ça a été le deuxième port romain le plus important de la Méditerranée occidentale. Et effectivement, les installations portuaires de Narbonne, dont on parlera peut-être tout à l'heure, effectivement faisaient 2 kilomètres de long. C'était de là partait l'huile d'Andalousie pour alimenter effectivement Rome et puis les provinces romaines de la Méditerranée. C'est de là que partait le vin de la province de la Narbonnaise. C'est de là aussi que partait le fer ou le charbon de la Montagne Noire dans le Massif Central. C'était une ville effectivement très importante, certainement 2 à 3 fois plus peuplée que des villes que l'on connaît bien, les villes romaines comme Nîmes et Arles. avec des bâtiments exceptionnels, un capitole qui faisait 100 mètres de long, qui était deux fois plus haut que le temple romain le mieux conservé, qui est à Nîmes, qui est la Maison Carrée. Ouais. Voilà, c'était une ville d'un lustre que l'on n'imagine absolument pas.
On ne se rend absolument pas compte de ce que c'est. Même cette phrase 100 mètres de long, c'est abstrait, juste pour situer. 100 mètres de long, c'est un bâtiment de la longueur d'un terrain de football. À l'époque de l'Antiquité, c'était quand même considérable. Narbonne était parfois décrite par les auteurs antiques comme ayant une architecture de bâtiment éblouissante. Comment être certain de tout cela aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il n'y a aucun bâtiment de l'époque, contrairement à Nîmes ou Arles, qui soit encore debout?
Alors, on ne retrouve plus rien en surface, ou très peu de choses. Par contre, le sous-sol de Narbonne est extrêmement riche. Et les fouilles qui ont déjà été faites depuis plusieurs décennies, voire même dans les siècles passés, ont permis effectivement d'exhumer des vestiges de ces grands monuments. C'est-à-dire qu'on a retrouvé, par exemple, lors de la construction du collège Victor Hugo, qui est le grand collège dans le centre de Narbonne, on a retrouvé les vestiges du Capitole. On a retrouvé des colonnes de marbre qui faisaient 18 mètres de haut. On a retrouvé les emplacements, en fin de compte, de ce Capitole, ce qui a permis effectivement d'en reconstruire, enfin d'en retracer complètement la position et la longueur. Donc effectivement, c'était un bâtiment énorme, tout en marbre. Il a fallu, je ne sais plus combien, je crois que c'était 50 bateaux contenant 220 tonnes de marbre chacun pour construire ce capitole. C'est énorme de toute façon. Mais ce n'est pas le seul bâtiment. Il y avait des arènes de 25 000 places. Il y avait, qui se trouvaient à quelques centaines de mètres, en fin de compte, du capitole. On retrouve effectivement des emplacements de domus, c'est-à-dire de maisons de riches Narbonnais, enfin Narbonnais romains, puisque Narbonne était une ville romaine, ouais, habitée par des Romains. Enfin, ouais, pour reparler un petit peu de l'histoire de Narbonne. Et effectivement, on retrouve des maisons qui faisaient 900 mètres carrés au sol, avec des peintures murales, des fresques murales, qui étaient dignes de celles que l'on retrouve à Pompéi.
Et là, fresque, on a retrouvé, mais c'est carrément un jeu de domino avec des morceaux de 2 mm sur 3 mm, et ça a été reconstitué, c'est absolument prodigieux. Il y a aussi des images en 3D, on va en parler. Alors, il y a pas de bâtiments antiques à admirer, on l'a dit, mais de nombreux sites de fouilles. C'est le cas notamment du site de la Robine, immense nécropole, découverte il y a seulement 2 ans. C'est le plus grand site de fouilles en France, près de 4000 m². Les recherches ont pris fin en novembre dernier. Elles ont permis de mettre à jour près de 1400 sépultures et d'obtenir des infos plus précises sur certaines pratiques funéraires. C'est ce que vous a expliqué l'archéologue qui a dirigé ces fouilles.
On a aussi des vestiges de ce qu'on appelle des conduits à libation, qui sont constitués de morceaux d'amphore, donc ces sortes de tubes qui mettaient en relation la surface avec l'intérieur de la sépulture et qui permettaient donc aux vivants de rendre un hommage aux défunts en versant des liquides ou en faisant des offrandes d'objets ou de cadeaux aux défunts. Et donc ça, c'est une pratique qui n'est pas inconnue ailleurs mais qui est rarement conservée de cette manière-là.
Valérie Bell, pardon, archéologue, ce qu'elle dit donne une bonne idée de ce qu'est son travail, une activité scientifique, pointue, minutieuse, loin des découvertes spectaculaires auxquelles on peut parfois l'associer. Justement, question au réalisateur que vous êtes, question média, comment filmer quelque chose et rendre spectaculaire quelque chose qui ne l'est pas?
Alors là, c'est une excellente question.
Merci.
Je pense qu'il y a une peu. Je crois qu'au bout d'un moment, il y a une question un peu d'habitude de savoir effectivement à quel moment intervenir. Alors c'est vrai que filmer des fouilles, c'est pas très simple. Alors ces fouilles-là, quand même, étaient quand même un petit peu exceptionnelles. 750 tombes. Alors quand on dit 750 tombes, 10% de ces tombes, de toute façon, étaient des inhumations. Donc on retrouvait des squelettes, des coffrages en bois, etc. Et les autres, 90%, c'était des crémations, en fin de compte, puisque c'était en fin de compte les coutumes funéraires de l'époque. Les gens se faisait crémer. Donc là, on retrouve effectivement des vases, des choses de ce genre, des petites poteries, mais une urne funéraire, mais on ne retrouve pas de corps. Et effectivement, c'est vrai que ces archéologues qui travaillent dessus, d'abord, les archéologues, ce sont des personnages. Donc effectivement, déjà, il faut déjà un petit peu voir effectivement quels vont être les bons personnages, comment vont-ils réagir, comment vont-ils nous expliquer. Alors on essaie de ne pas faire des interviews sèches comme ça, mais des interviews en situation. Et parfois, effectivement, c'est vrai, quand vous avez une jeune archéologue qui découvre quelque chose d'exceptionnel, de toute façon, qui d'un seul coup essaie de comprendre qui était l'individu qui était inhumé. Effectivement, on arrive parfois à trouver des petits moments de grâce, en fin de compte, pour faire vivre ces fouilles.
Justement, je vous interromps, petit moment, vous filmez de jeunes archéologues qui ont les mains dans la terre et qui témoignent à la fois de leur découverte et de leurs conditions de travail.
On a mis du temps avant de comprendre, mais on a enfin déterminé qu'il était sur le ventre et pas sur le dos. Et effectivement, il est exactement dans la même position que moi. Pour moi, c'est une grande première, là. Dans un cercueil sur le ventre, J'avais jamais fait.
Là, on est très très proche de la Robine, donc le cours d'eau de Narbonne. De fait, la nappe phréatique est très très proche. Donc dès qu'on creuse un peu, on se retrouve avec la nappe phréatique affleurante et on a beau pomper, elle revient systématiquement. Dès qu'on arrête de pomper, ça veut dire qu'elle est toujours présente.
Alors, le jeune archéologue, faut l'imaginer en train d'écoper avec une pelle et un seau à la main, les pieds dans la boue. Sa collègue, elle est allongée à plat ventre sur des planches pour faire apparaître peu à peu le squelette dont elle parle. Tout ça pour dire que dans votre documentaire, Alain Tixier, vous montrez aussi les conditions de travail de ces archéologues. Vous leur avez fait refaire des scènes. Vous étiez comme ça, au fil, comme si c'était un reportage.
Non, on a essayé de filmer le plus possible sans leur faire refaire des scènes. J'ai fait un film sur l'archéologie en Éthiopie il y a 2 ans où effectivement, les conditions étaient différentes. On a fait refaire certaines séquences parce que les choses allaient assez vite, alors que là on a essayé de ne pas trop intervenir effectivement dans le travail de ces archéologues. Le temps leur était compté, ouais. Et bon, c'était à nous de nous adapter. De toute façon, on essayait de faire du grand documentaire, mais effectivement un peu sous forme, ouais, de reportage. C'est-à-dire qu'il faut vite saisir la situation, avoir des chefs opérateurs qui soient extrêmement rapides. Là, on n'avait qu'un seul chef opérateur, le reste il était obligé d'être un petit peu partout, et puis tout de suite de voir quel va être le personnage qui va pouvoir à un moment T, mmh, la fille qui découvre, enfin, cette jeune doctorante ou archéologue, je ne sais plus si une trentaine d'années, qui découvre ce squelette, en fin de compte, dans une position sur le ventre. Donc, mmh, pour elle, c'était exceptionnel. Et là, c'est ce moment-là à saisir. Mais on a eu un moment, une chance absolument extraordinaire, qui est une séquence qui se trouve vers la fin du film. C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où ils ont découvert, certainement, pour moi, la découverte la plus fabuleuse, un coffre en marbre sculpté qui était effectivement une urne funéraire. Mais on sentait que le personnage qui s'était fait incinérer et dont les restes étaient dans ce coffre, était un personnage très important.
Et là, vous y étiez vraiment.
Et on était vraiment au moment où ça s'est passé.
Je me souviens, moi, de films d'année 70, j'étais trop jeune pour comprendre que tout était fake, où on voyait des films sur l'archéologie, on nous montrait des découvertes, on voyait un archéologue qui entrait dans une crypte ou dans une cave, et la caméra était à l'intérieur et le filmait en train d'entrer. Donc ça veut dire que quelqu'un était entré avant lui, voilà, et que ce n'était pas une découverte, mais j'étais trop jeune pour comprendre à l'époque. Merci d'avoir été honnête, vous restez avec nous, on va continuer à parler de ce documentaire et dire tout le travail que vous avez fait pour remettre en scène, grâce à la 3D, la Narbonne de l'époque, alias la Seconde Rome. Culture Média continue.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Alain Tixier, il signe ce documentaire Narbonne, la seconde Rome, dans le cadre d'une journée consacrée à l'archéologie sur Arte. Et ce doc passera demain à 20h50 précisément. Ce qui est spectaculaire, je l'ai dit, ce sont les reconstitutions en images de synthèse des sublimes villas romaines ou même de bâtiments commerciaux. C'est impressionnant. Et encore plus quand on voit une partie de ce sur quoi se fondent les archéologues. Quelques pierres, des fondations justement, rien de plus. Quelle est la part de l'imagination dans ces exercices de reconstitution, notamment pour les décors muraux, pardon, dont on a retrouvé parfois quelques centimètres carrés seulement?
Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés lorsque l'on fait reconstituer en images de synthèse des bâtiments dont il reste 1 ou 2%. Il faut éviter ce qu'on va appeler, disons, l'archéopoésie. C'est-à-dire qu'il faut éviter de faire n'importe quoi parce que sinon les archéologues ne travailleraient plus avec nous. Non, donc effectivement, c'est sur des travaux scientifiques. Effectivement, il y a des gens des dessinateurs, des archéologues qui se sont penchés et qui, à partir évidemment, en comparant avec d'autres bâtiments connus, d'autres structures similaires, arrivent à retrouver exactement le plus près possible, en fin de compte, les formes et les structures des bâtiments existants. Et à partir de là, nos infographistes ont travaillé sur des images qui avaient été données et des plans qui avaient été donnés par les archéologues. Donc la société qui a fait ces images de 3D sur le Capitole, sur les Domus ou sur le port, se sont quand même inspirés effectivement des travaux des scientifiques, des archéologues, et ont permis de faire des choses qui, a priori, n'a posé aucun problème, parce que le film a été vu par tous les archéologues qui ont travaillé sur Narbonne, et aucun nous a dit non, pas du tout, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Alors il est possible effectivement que la villa impériale, cette espèce d'immense villa que l'on trouve effectivement à Port-la-Nautique, qui aurait accueilli Auguste, qui est venu à Narbonne en 27 avant Jésus-Christ, 22 et 27 avant Jésus-Christ, cette villa impériale qui fait 128 mètres de long, qui est absolument immense, sur laquelle les archéologues travaillent déjà depuis plusieurs années, elle est tellement immense qu'il est quand même un peu difficile, effectivement, à partir même des éléments déjà très sérieux qui ont été découverts, d'en refaire une reconstitution exacte. Mais on s'est servi, en fin de compte, on le dit, on s'est servi effectivement de plans ou de reconstitution de villas du même gabarit similaire que l'on trouve effectivement entre Rome et Naples ou à Capri, la Villa Tibère ou des villas de ce genre. Effectivement, c'était des villas à étages avec un lustre absolument incroyable, des bassins. Et donc, celle-ci, effectivement, on est proche de la réalité, mais on n'est pas sûr qu'elle était exactement comme ceci.
Parce qu'il faut expliquer qui étaient les gens qui avaient ces grandes villas. Ce n'étaient pas des citoyens de Narbonne, c'était des citoyens romains. C'était souvent des généraux ou des grands pontes des armées de César et qu'on récompensait à leur retraite en leur octroyant du terrain, une villa, et ils allaient, si j'ose dire, conquérir en soft power la Gaule. Les fouilles de la grande nécropole romaine ont pris fin en fin d'année dernière. Que va devenir le site ?
Ah, le site de la nécropole de la Robine. Donc, ces fouilles étaient faites sous l'égide de l'INRAP. Hein. Donc, c'est l'archéologie préventive. C'est-à-dire que ce terrain à la périphérie de Narbonne était destiné, en fin de compte, à servir de support à 4 résidences. Mmh. 2 avaient déjà été construites et l'archéologie préventive a permis effectivement de s'apercevoir qu'il y avait cette immense nécropole qui était là et qui ont donc repoussé la construction des 2 buildings qui devait être construit de 2 ans. Alors la pandémie effectivement a fait perdre pour 6 mois aux fouilles et bien sûr automatiquement aux promoteurs qui devaient construire ces 2 bâtiments. Mais ça y est, maintenant tout est rebouché et maintenant il va y avoir 2 résidences qui vont être sur la nécropole.
Il y en a un petit peu de peine quand on voit le lycée Victor Hugo à Narbonne où on voit les fouilles, c'est absolument somptueux et maintenant c'est un terrain de basket et de handball. J'ai rien contre le basket ni contre le handball, mais c'est moins poétique. Alors vous suivez d'autres archéologues sur d'autres sites à l'Intixier de Narbonne, ça vous permet de raconter comment fonctionnait la ville à l'époque romaine. Elle avait un port, vous l'avez dit. Vous avez cherché à comprendre quelle place elle occupait dans le commerce de l'époque. Et pour cela, vous êtes allé en mer avec une équipe d'archéologues. Parmi eux, il y a Franca Cibecchini, qui, lors d'une fouille menée par un robot sous-marin, a repéré une petite lampe en terre cuite, lampe sur laquelle on voit une inscription, le nom de celui qui l'a fabriquée.
On a eu vraiment un coup de chance. C'est le nom du fabricant est connu. Et c'est un fabricant qui a recensé les timbres Elemun File correspond à Lucio Muniatius Filemo, un affranchi que travaille dans un atelier à Rome et qui est actif entre les 90 et les 130 après Jésus-Christ. Ce type de marchandises, ces lampes en particulier, on les retrouve dans plusieurs sites de toute la côte méridionale de la France jusqu'à Narbonne.
Vous avez souvent utilisé un drone pour tourner. Ça vous permet d'avoir des vues aériennes de sites différents. Ça donne une très bonne idée du plan et des proportions. Vous n'auriez pas pu vous en passer.
Non, maintenant, effectivement, il est très difficile effectivement, de faire ce genre de film sans drone. Là, on a eu une chance extraordinaire. C'est un petit peu la seule chance liée à la pandémie. Ouais. C'est que les images que l'on a été faire à Rome et à Ostie, eh bien, il n'y avait personne dans les rues. C'est-à-dire qu'on avait un droniste italien qui était extraordinaire.
Je me suis demandé comment vous aviez fait d'ailleurs ces images de Rome désert. Je n'avais même pas pensé à la pandémie.
Aucun touriste japonais en train de photographier le dos de Rome. C'est-à-dire qu'on était dans le Forum, le Colisée ou à Ostie. Il n'y avait strictement personne. Ce qui nous a permis de faire des images, je veux dire, un petit peu exceptionnel.
Pas d'anti-japonisme primaire.
Non.
Arte a prévu une programmation spéciale demain pour les journées européennes de l'archéologie. L'archéologie, c'est un sujet qui marche bien sur la chaîne. Pour quelle raison ? Eh bien, on a posé la question à Hélène Coldéfi. C'est la directrice de l'unité découverte et connaissances d'Arte France. Voici sa réponse.
Je pense que nous raffolons des histoires, en particulier celles multiples de nos origines, individuelles ou collectives. Et parce qu'enfin, le travail de l'archéologue est simplement fascinant. C'est une véritable enquête scientifique, complètement identique dans sa démarche à une enquête policière, avec son lot d'indices, de rebondissements, de suspense, de découvertes. En bref, beaucoup d'ingrédients, au final, qui attisent notre curiosité et excitent notre imagination.
Vous êtes d'accord avec elle, il y a du suspense ?
Ah, complètement. De toute façon, moi j'avoue que c'était une véritable enquête, en fin de compte, puisque moi je suis arrivé complètement neuf sur Narbonne. Pour moi, Narbonne... C'était à l'époque de l'Empire romain, je ne connaissais absolument pas. Donc c'est une véritable enquête. Donc il y a du suspense, de l'émotion, tout ce qu'il faut pour faire un film presque d'aventure.
J'allais justement vous parler de ça. Vous venez de citer émotion. Souvent, les archéologues ont ce mot, c'est émouvant. Vous aussi, vous étiez ému parfois sur le tournage ?
C'est toujours un petit peu difficile, effectivement, lorsqu'on est un peu spectateur, que l'on filme et que l'on doit effectivement faire attention à ce qui se passe, de pouvoir conserver ses capacités d'émotion. Mais c'est vrai que, par exemple, la séquence où on trouve ce coffre, c'est une séquence émouvante. Parce que, comme tout le monde, comme les scientifiques, comme les archéologues qui étaient là, c'est vrai que quand on ouvre ce coffre en marbre, on est un peu dans Indiana Jones, quoi.
Bien
on
sûr.
A envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va découvrir. Ce qu'on a découvert, c'était...
Ne dis pas ce qu'on a découvert, vous le verrez dans Narbonne, la seconde Rome. C'est demain soir à 20h50 sur Arte. C'est signé Alain Tixier. Merci d'avoir été avec nous. On peut déjà le voir sur la plateforme gratuite arte.tv. C'est là où je l'ai regardé. Dans un instant, on va parler de Camille et Images, la nouvelle émission événement de TF1 présentée par Camille Combal. Nous serons avec Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions de la chaîne. Merci encore Alain Tixier.
Merci.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Fabrice Bailly.
Bonjour Philippe.
Je dis à Fabrice Bailly, attention, on est filmé. Vous êtes le directeur des programmes et des acquisitions de TF1. On va faire avec vous un petit bilan de l'année de cette saison sur TF1, parler de la grille d'été, également de votre actualité immédiate, c'est celle-ci. C'est demain samedi, nouveauté, Camille et Images, la nouvelle émission de Camille Combal sur TF1. Alors souvent on passe ici la bande-annonce, mais cette émission est tellement visuelle que la bande-annonce fait hurler de rire, mais ne fonctionne pas en radio. Donc c'est à vous de me raconter le concept, Fabrice Bailly.
Alors le concept c'est assez simple, c'est en fait Camille, il a été comme tout le monde, comme nous tous, il a vécu des confinements, il a beaucoup regardé la télévision et il a recueilli pour nous toutes les images plutôt très drôles, très cocasses, même franchement à mourir de rire. Voilà, il va nous les présenter en compagnie d'invités, parmi lesquels Clara Luciani, Lola Dubini, Philippe Lelouch, etc.
Artus et Hakim Gemili. Le concept, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est on rigole autour des images ou c'est lui? Alors, je vais vous dire la vérité, moi, j'ai pas vu l'émission. Ouais. J'ai vu que trois séquences qui sont très réussies, mais c'est normal, parce que quand on nous montre des séquences, elles sont à la base très réussies. Comment ça se passe? Comment s'articule l'émission?
Bon, en fait, par thématique, si vous voulez, Camille présente les images, par exemple, les images de ce qu'on appelle un petit peu la scripted reality. Je crois que Philippe, vous avez vu cette image.
Ouais.
Cette image.
C'est
bon.
La télé-novella.
La scripted reality, c'est en fait des fictions un peu avec beaucoup moins d'argent qui passent sur certaines chaînes le matin, etc. Ouais. Et notamment la télé-novella turque. Donc voilà, c'est la rubrique. Ils auraient aimé avoir le César, mais ils ne l'ont pas vraiment eu, par exemple. Et voilà. Et Camille réagit avec les invités, etc., par rapport à ces images.
Pour moi, qui connaît bien la fabrication des émissions de télé, Camille n'a pas trouvé les images tout seul. Il y a une équipe avec lui, parce que c'est pas possible de regarder tout ça.
Mais
parce que les images de la télé-novella turque, il faut la trouver.
Mais Camille, il a une grosse culture télé quand même. Hein.
Ça, je sais.
Donc, je dirais qu'il a été aidé, mais il a beaucoup contribué.
Il y a aussi un côté, la France a un incroyable talent. Il y a aussi, vous demandez du show à des gens.
Oui, absolument. Par exemple, on va faire prochainement Game of Talent, qui est présenté par Jarry, où en fait on va présenter un show qui est un show de guessing. Alors qu'est-ce qu'on appelle le guessing aujourd'hui?
Ça veut dire deviner.
C'est un petit peu, voilà,
c'est
dans
ça,
la ligne Massinger, c'est deviner derrière le costume malade. Des gens qui ont des talents particuliers vont se présenter face à des célébrités et elles vont devoir deviner quel est le talent qu'elle possède.
Mais là, en l'occurrence, j'étais dans l'émission de Camille Combal, ça m'a étonné parce que la France a un incroyable talent, c'est une marque d'M6, là on est sur TF1, et j'ai même trouvé cette phrase dans votre dossier de presse, vous découvrez le pire et le meilleur des politiques, ceux qui ont un incroyable talent, mais pas assez pour faire un incroyable talent. Je me suis dit, dis donc, ils font la promo de la chaîne d'en face.
Bah, non, mais quand il y a des bonnes émissions, elles sont des bonnes émissions pour tous les publics.
Voilà. Et puis peut-être un jour, TF1 et M6... seront encore plus proches qu'elles ne le sont désormais maintenant. Camille a quand même trouvé un candidat, il s'appelle Hugues, en direct de chez lui. Je ne sais pas pourquoi je dis quand même. Il a trouvé un candidat, Hugues, qui est en direct de chez lui et qui sait faire beaucoup de choses, la preuve.
Alors, bienvenue à toi, Hugues, on est content de t'avoir.
Un plaisir, évidemment, je suis très content d'être là.
Hugues, il est avec la petite chemise, on dirait qu'il fait vraiment un zoom avec son
DRH. Il est vraiment trop chou, je trouve.
Hugues, mon pote, quel est ton talent, mon pote?
Mon talent est un peu exceptionnel. Je suis capable de jongler avec des pommes, de les manger en même temps et de répondre à des questions.
Eh bien, tu rejoins le groupe. T'es engagé.
Et on sent la bonne ambiance sur le plateau. Et après, il le fait vraiment. Il mange, il répond aux questions.
C'est vraiment une soirée de détente où on rigole énormément. Et je pense qu'on en a vraiment beaucoup besoin en ce moment.
C'est produit par Elimac Productions. Je me dis, mais qui est cette boîte de prod? Je ne la connais pas. En fait, Elimac avec deux L, c'est Camille à l'envers.
Exactement.
Vous avez vu, comme il y en a là-dedans, Colombo. Vous nous aviez annoncé le retour d'une famille en or avec Camille Combal. On a vu une bande-annonce en avril. Ça revient quand?
Ça reviendra la saison prochaine.
À la rentrée?
Probablement.
Probablement. Ou la rentrée après Noël, ou la rentrée de 2022.
La saison prochaine, ça reste à déterminer.
Il y aura quoi de nouveau par rapport à la dernière fois qu'il y a eu une famille en or sur TF1? C'était De Chavannes qui présentait l'émission en 2007. J'imagine que vous allez dépoussiérer, que vous êtes en train de travailler là-dessus. Il y aura quoi de nouveau?
Bah écoutez, ça a déjà été tourné, hein, la famille en or. Hein. C'est déjà en boîte. Bah en fait, Camille y a porté son ton. Je dirais sa relation avec les gens. Il y a porté aussi, il y aura des petits sketchs, des petites images, etc. Donc ça va être, c'est à mi-chemin entre le jeu et vraiment le divertissement.
Camille Combal présente sur TF1 Danse avec les stars, Mask Singer, Qui veut gagner des millions, Camille et Images, bientôt Une famille en or, et on annonce aussi un concours de billes qui s'appelle Marble Mania,
tout à fait,
qui a été tourné en Hollande, si je suis bien informé. On aura Yoann Riou qui co-présente avec Camille la semaine prochaine dans cette émission. Camille Combal, pardon de dire la question comme ça, et c'est pas faire un jour à son talent, au contraire, vous n'avez pas peur de le rincer?
Non,
de trop l'exposer?
Pas du tout. Vous savez, Camille, avec Camille, on travaille vraiment en étroite connivence et en partenariat. Quand il y a des choses qu'il tente, qu'il motive, bah voilà, on lui propose. Mmh. Je dirais, il a sa spécialité.
Non, je comprends qu'ils disent oui, mais faut le protéger. Je vais dire à quoi je pense. Je pense un petit peu à ce qu'a fait M6 avec Valérie Damido, qu'on voyait trop sur la grille.
Bah écoutez, quand est-ce que la dernière fois vous avez vu Camille sur TF1 ces derniers temps?
C'est une bonne question, vous avez raison. Vous espacez les...
Exactement.
Voilà, il n'est pas en quotidienne.
Non, absolument pas. Et la dernière fois qu'on l'a vu, de mémoire, c'était sur Mask Singer et c'était l'année dernière.
On va parler de la grille d'été avec vous, Fabrice Bailly. Un mot sur une personne qu'on apprécie beaucoup ici et qui sera là vers 10h20, Hélène Manarino. Quel projet pour elle, en plus de ses émissions sur TMC, qui fait partie du groupe TF1, Rétroscopie?
Bah, Hélène, elle arrive en prime sur TF1, sur deux primes de jeu, qui sont deux grands quiz, qui ont pour sujet à la fois le code de la route et puis la culture télévisuelle. Donc je dirais que ça va être un grand baptême pour Hélène. On est ravis. On a tourné avec elle le week-end dernier. Ça s'est extrêmement bien passé. Et donc on est ravis d'accueillir Hélène sur TF1 Prime Time.
Ça sera quand à l'antenne?
Ce sera cet été.
Vous avez pas encore donné... Enfin, on ne donne pas les dates parce que pour ne pas donner aux chaînes concurrentes les dates.
Exactement.
Mais vous savez quand vous allez passer, mais vous ne le donnez
absolument
pas. Voilà. Et pour trahir quelque chose, pour une fois qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui nous parle, Hélène Manarino m'a dit que le tournage s'était très très bien passé,
ouais,
qu'elle était
vrai.
Contente, ce qui est bon signe, parce qu'en général, on n'est jamais content de sa propre prestation.
Exactement.
Marble Mania, concours de billes, co-présenté par Camille Combal et Yoann Riou, qui sera notre invité la semaine prochaine. Ça passera quand à l'antenne?
Bah ça, c'est ce qu'on appelle vendredi en 8, c'est-à-dire pas ce soir, mais vendredi prochain. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu d'habileté et de chance qui s'est présenté, donc, comme vous le dites, par Camille et commenté par Yoann Riou, où deux équipes de trois célébrités s'affronteront successivement dans des jeux d'adresse,
ouais,
autour, ma foi, des billes.
Alors, je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse, pourquoi j'ai voulu recevoir Yoann Riou. C'est parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Or, Didier Frolli, le réalisateur, dit c'est complètement dingue, c'est totalement stupéfiant. Qu'est-ce que ça a de stupéfiant de faire une émission, un immense show avec simplement des billes?
Bah déjà, visuellement, on ne l'a jamais vu. C'est vrai. D'ailleurs, ça étonne beaucoup.
Ouais.
Deuxièmement, c'est très spectaculaire, en fait. Il y a des parcours de billes autour d'une fête foraine, d'un circuit de Formule 1, une jungle, etc. Pour vous dire, c'est un format qui est créé par John Demol. Bon, qui n'est pas le dernier créateur.
John Demol, c'est celui qui a inventé
Le Loft et Voice.
Ouais.
Et Voice,
ouais,
aussi.
The Voice.
Et donc, il a créé dans son pays d'origine, les Pays-Bas. Et Marble Mania, sur une chaîne qui fait 8% d'audience, en a fait 20%.
Ouais.
C'est-à-dire plus du double. Ça a été un véritable phénomène. Alors, on espère qu'en France, ça obtiendra le même succès. Peut-être pas,
ouais,
parce que faire 2,5 fois la part d'audience de la chaîne, ce serait incroyable. Mais disons que dans notre offre de cet été... Ce qui est aussi Camille et Images, c'est-à-dire de détente, de rire, de quelque chose d'extrêmement familial et d'écoute conjointe, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le rôle de TF1 justement de rassembler tout le monde, eh bien Marble Mania peut y contribuer.
Et cette saison, vous avez réussi à doubler la part d'audience de TF1? C'était une fois, c'était avec HPI et Audrey Fleureau. On va parler du bilan de la saison avec Fabrice Bailly, Culture Média continue.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Fabrice Bailly, c'est le directeur des programmes et des acquisitions de TF1. On va parler du bilan de la saison, puisqu'on approche des grandes vacances, comme on disait quand on était au CM2.
Voilà,
le carton de la saison, c'est quand même HPI avec Audrey Fleureau. Le mot carton est un peu faible, on peut dire phénomène. Je vais citer le site OZAP qui écrit HPI entre dans l'histoire de la télévision française. Bilan définitif, vous connaissez les chiffres?
12 millions environ.
11,5 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme. 45% de part d'audience. 52% sur les femmes responsables d'achats de moins de 50 ans. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'HPI devient la troisième série française la plus regardée de l'histoire de la télé depuis la création de la mesure moderne de l'audience.
Et je vais rajouter une chose que j'ai appris hier, Philippe.
Dites.
C'est que tous les jeudis soirs, c'était le quatrième programme le plus regardé au monde.
Wow.
Dans tout le monde,
ouais.
HPI, quatrième programme regardé.
Je n'en reviens pas, surtout quand on imagine la population de l'Inde et de la Chine. Je n'en reviens pas. C'est une série policière particulière, parce que c'est à la fois, il y a des enquêtes, mais c'est drôle. Je raconte, pour qui n'aurait pas vu, Audrey Fleureau a un QI de 160, mais elle déteste les flics, or elle est femme de ménage. Tout par-delà, on va retrouver un son d'Audrey Fleureau avec nous dans Culture Média. C'était le 29 avril, avant le lancement du premier épisode. Elle disait ses doutes au micro de Louise Bernard. Elle révélait que sur cette série, elle a donné une large place à l'improvisation et qu'elle n'était pas sûre du résultat final.
Quand je tourne, et là spécifiquement HPI, j'essaye d'être dans un état d'inventivité permanente et un peu de déconnade permanente pour essayer de trouver des choses. J'ai une marge d'intervention qui est, à mon avis, nécessaire pour ce personnage. C'est dans l'instant, qu'est-ce que je vais trouver à faire comme connerie. Enfin, je l'ai ramené à mon humour. J'ai injecté des choses qui, moi, me font marrer. Maintenant, j'espère que ça fera marrer les gens, quoi. Là, j'ai un peu les chocottes, en fait.
Elle a un peu les chocottes.
Je crois qu'elle a été rassurée depuis.
Oui, la saison 2 est en route.
Oui, absolument. Hein,
vous êtes à quel stade? C'est écrit, ouais, c'est, ou c'est en cours d'écriture? Tournée à la rentrée. Autre bilan des séries. Il y a Plan B, il y a Gloria, La Promesse, Je te promets, ça a marché comment?
Oui, ça a été un peu la saison de tous les records hein, en fiction, vraiment. On a fait 6,3 millions en moyenne sur toutes les nouvelles séries. On a 27 des 30 premières audiences de fiction sur la saison.
Ah oui, ça c'est pas que le confinement, parce que j'explique, non. Avec le confinement on fait des bons scores, mais quand vous êtes devant les autres, autres chaînes ont les mêmes conditions.
Donc il faut prendre les choses en relatif.
Bien
exactement.
Sûr.
Non, La Promesse ça fait 8,3 millions, on a fait, donc avec Sophia et Saïdi, Gloria on a fait 7,4 millions, sur Je te promets ça a très très bien marché aussi sur les cibles jeunes, Le Remplaçant on a fait 8 millions, Plan B 5,2 millions, plus de 30 sur les ménagères de moins de 50 ans. Donc vraiment, toutes nos nouvelles séries ont très très bien marché, on est vraiment très très contents. Et puis aussi, je rajouterais, parce que c'est très important, il y a le renouveau aussi de la fiction française en access. Et ce pourquoi TF1 aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait la meilleure saison pour le groupe TF1 depuis 2008. Et pour TF1, sa meilleure saison depuis 5 ans sur cible. Ouais. Et c'est aussi grâce à la transformation réussie de l'access, et notamment... Outre Les Familles Nombreuses, qui est le programme de flux à 17h, le gros succès de Ici Tout Commence, qui a multiplié les audiences de la casse par deux, ce qui est quand même énorme. Et puis toujours le succès de Demain nous appartient.
Alors, je me suis même laissé dire qu'en interne à TF1, les comédiennes Julie de Bonnat, Audrey Fleurot, Camille Lou et Sofia El Saïdi sont appelées les Avengers de TF1.
Alors là, vous êtes très, 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 très bien renseigné.
Eh bien, merci beaucoup.
Oui, et d'ailleurs, juste Philippe, elles tournent actuellement, toutes les quatre, ensemble, une fiction qui s'appelle Les Combattantes. Et qui est produit par la productrice du Bazar de la Charité, réalisé par le réalisateur du Bazar de la Charité.
Vous faites comme chez Marvel, vous mettez vos quatre héros les plus puissants dans le même épisode.
Et
comme ça,
on avait déclenché ça avant d'avoir les audiences de ces 6 derniers mois, mais c'est vrai que ça tombe bien.
Tout ne réussit pas toujours et c'est bien normal. Vous avez déprogrammé la série américaine Dirty John qui a été lancée le 1er juin dernier à cause des audiences. Elle sera remplacée par quoi?
Elle a été remplacée par le film Momo face au match France-Allemagne et elle était sur 3 soirées. Donc
c'est sans regret.
Voilà,
c'est ce que vous voulez dire. Quel bilan pour TMC? Je veux dire, pourquoi je vous pose la question? Parce que ce matin, il y a un grand papier, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les pages médias du Figaro. La TNT a perdu 1,4 milliard d'euros en 15 ans, qui explique que les chaînes de la TNT ne sont pas rentables. Donc même si ça marche, quel bilan?
Mais c'est une économie compliquée, la télévision, vous le savez, surtout sur ces 2 dernières années avec la crise de la Covid. Mais TMC fait une très bonne saison. Ils sont leaders des chaînes de la TNT pour la 4e année consécutive. Sur cible, c'est-à-dire donc sur les cibles publicitaires, ils font leur record historique. Et ce, quand même, en grande partie, grâce à Quotidien, qui fait une saison fantastique à près de 2 millions. Et aussi, on a lancé des nouveaux programmes, dont celui de votre collègue Hélène Manarino, Rétroscopie, qui a très très bien marché. Avec,
oui, mais c'était un programme.
Avec Jean-Paul Roux. On continuera.
Voilà. Et est-ce que vous allez agrandir le spectre? Parce que là, on peut dire que, par exemple, TMC est un peu Quotidien dépendante, comme C8 est un peu Touche pas à mon poste dépendante.
Moi, je veux être vraiment... Je suis ravi d'être Quotidien dépendant, parce que tous les soirs, c'est une offre incroyable pendant plus d'une heure et demie, et je salue le travail de Laurent Bon et Diane Barthès à ce sujet.
Merci beaucoup Fabrice Bailly, vous êtes le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1. Je rappelle Camille et Images, la nouvelle émission de Camille Combal, ça démarre demain sur TF1 et les programmes d'été, ça démarre cet été.
Voilà, merci beaucoup Philippe.
On a des infos ici dans cette émission. Culture Média, ça continue après le rappel des titres de 10h. Eva Rock pour son zapping du lendemain, consacré à un reportage en immersion au Mali, et Bertrand Chameroy pour un écran de veille très houblonné. Notre invité, c'est une légende de la musique, le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesu. Il a fondé l'Orchestre National de Lille, je crois en 65, je dis ça de mémoire. Il va diriger le concert de clôture du Lille Piano Festival. Et puis dans les indispensables, un violoniste et des plats qui sentent bon la Méditerranée. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs?
Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.